On va commencer par un bif fort. Vous le savez, Backseat est un projet, une émission qui est rendue possible grâce à vous, grâce à votre argent, grâce à votre financement participatif qui nous permet de réaliser cette belle émission depuis 3 ans. Et depuis 2 ans, on vous parle de la plateforme KissKissBankBank sur laquelle vous pouvez faire un don pour soutenir Backseat. Eh bien, vous l'avez peut-être appris il y a quelques semaines, quelques mois, la plateforme KissKissBankBank a été rachetée par son concurrent qui s'appelle Ulule. Et on a donc décidé de faire un bifort en invitant nos amis d'Ulule pour discuter justement de ça. J'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec Arnaud Burgo. Salut Arnaud.
Salut Jean.
Merci d'être avec nous. Arnaud, tu es le directeur général d'Ulule.
C'est ça, exactement, et cofondateur. Je fais ça depuis 15 ans.
15 ans de financement participatif. On va en parler de financement participatif, cher Arnaud. Mais avant ça, justement, c'était le 2 décembre dernier que vous avez annoncé publiquement l'acquisition de KissKissBankBank, qui jusque-là était la propriété de la Banque Postale. Comment ça s'est fait, ce rachat, et pourquoi ?
Alors, déjà, c'est quelque chose qui avait été discuté il y a 5 ans, à l'époque où il y avait encore Vincent Ricordo, un des cofondateurs, et ça devait être peut-être en sens inverse.
Je me souviens que KissKiss devait racheter Ulule, ouais.
Bah alors, c'était pas public, donc tu veux pas savoir.
J'en avais entendu parler.
Mais on en avait discuté, en fait, c'était assez logique, parce qu'on est des plateformes, globalement, qui font les mêmes métiers, et il y a des gros investissements, les gens le perçoivent pas forcément, mais faire une plateforme comme Ulule ou KissKissBankBank, c'est des grosses technos, il y a du paiement, il y a des contenus générés par les utilisateurs, il y a plein de fonctionnalités, et il faut respecter toute la compliance bancaire. La conformité, désolé pour les anglicismes.
Les règles de conformité.
La conformité, ouais. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on est assujetti à ça en direct, on est déclarant TRACFIN, donc c'est plein de règles, de process à respecter. Tout ça, ça a un gros coût et qui n'est rentabilisable que sur des gros flux. Et donc, en fait, on était 2 acteurs français qui font à peu près les mêmes métiers et qui font tous les deux ces investissements-là, donc on des grosses équipes techniques, produits, et qui du coup se battent un peu pour le même truc et qui ont du mal à vivre de ces métiers-là avec les flux qu'ils font. Et donc, c'est assez logique de dire à un moment, il faut converger et il faut réussir à se regrouper. Et ça n'avait pas pu se faire à l'époque pour plein de raisons. Et puis là, récemment, il y a eu un changement de direction stratégique au niveau de la Banque Postale avec toute une revue stratégique de leurs acquisitions historiques.
Okay.
Et donc, ils ont enclenché un processus pour vendre KissKissBankBank. Et nous, du coup, on s'est porté candidat. Et donc, il y a eu des discussions qui ont duré plusieurs mois. Et à la fin, c'est nous qui avons fini par remporter cette mécanique et donc à pouvoir acquérir KissKissBankBank et donc regrouper les deux entreprises.
Donc du coup, maintenant, Ulule, vous êtes tout seul sur le marché ? Vous êtes leader ? Il y en a d'autres, des acteurs sur le marché du financement participatif en France ?
On était déjà leader. Ça a été ça, notamment, qui a fait les choses, parce que nous, on est leader et légèrement bénéficiaire depuis plusieurs années. KissKissBankBank n'arrivait pas à trouver la rentabilité.
Ouais.
On faisait à peu près 3 fois plus de flux qu'eux.
Okay.
Mais voilà, en termes de... Parce que sur la question qu'on nous pose, on dit, mais du coup, vous êtes en situation de monopole.
C'est un peu ça.
Alors, en fait, on est sur un segment qui est celui de la collecte en ligne et qui s'est vachement élargi. Au début, quand on s'est lancé en 2010, il y a 15 ans, effectivement, si on avait regroupé des acteurs de ce qu'on appelle le financement participatif avec contrepartie, oui, il y aurait une forme de monopole. Mais aujourd'hui, quand tu crées des contenus ou des projets que tu veux collecter de l'argent en ligne, tu peux faire de la monétisation sur Twitch, tu peux faire de la monétisation sur YouTube, tu peux faire, quand tu fais du lancement produit, de la prévente sur Shopify. Mmh. Tu peux aller sur du Litchi, tu peux aller sur... Enfin, il y a plein de mécaniques de collecte en ligne. Donc, en fait, en réalité, le champ de la collecte en ligne s'est énormément élargi. Et nos concurrents, je dirais, directs historiques, sont plus du tout les mêmes. Donc non, on n'est pas du tout monopolistique et hégémonique.
D'accord, ok.
En ligne est très large.
Soyons précis pour les personnes qui nous écoutent et qui donnent de l'argent chaque mois sur KissKissBankBank pour Backseat. Qu'est-ce que ça change pour eux, ce rachat ? Ils ont rentré leur carte bleue d'ores et déjà, etc.
Ouais, tout
ils vont devoir faire quoi que ce soit.
Alors, aujourd'hui, ça ne change rien. Et entre mars et juin, on va migrer toutes les collectes par abonnement, c'est-à-dire des abonnements mensuels. Elles vont être regroupées au sein d'Ulule. Et donc, comme c'est la même entité juridique, que c'est les mêmes règles en termes de protection des données, etc., du coup, on va pouvoir regrouper l'intégralité des collectes sous la marque Ulule. Et donc, à ce titre-là, on va les notifier pour que ce soit plus simple pour eux qu'ils aient qu'un seul compte. Donc, on va leur proposer de regrouper leur compte Ulule et leur compte KissKissBankBank.
Ok, d'accord.
Mais ils n'auront rien à faire.
Voilà. D'accord, il n'y aura rien à faire. Il n'y aura
pas
à changer
d'action.
Sa carte bleue, etc.,
non.
A priori. Donc, du coup, c'est
relativement neutre. Non, c'est pas a priori, c'est sûr et certain.
C'est sûr et certain, d'accord.
Il y a
c'est
pas
sûr
de
et certain, c'est neutre. C'était
fait.
Évidemment une inquiétude qu'on avait, nous. On
Bien
devait
sûr.
Être quand même assez rassurés pour l'avenir du financement de Backseat. Donc, évidemment, l'URL va changer, ce sera plus KissKissBankBank. La page aura probablement une autre gueule aussi. Mais votre don ira toujours au même projet, ça ne change pas, et vous n'aurez rien à faire.
Et il y aura des redirections, donc de toute façon, si vous allez sur l'URL historique de KissKickBankBank, vous serez rebasculé sur la page qui sera sur Ulule.
Voilà. Parlons un peu de financement participatif, parce que le crowdfunding, en fait, ça n'existe pas que depuis Internet. Toi, tu dis que ça fait 15 ans que t'en fais, mais en fait, ça existe depuis un bout de temps.
Ouais, ça existe. En fait, je pense que c'est impossible de remonter à de quand ça a été créé. Moi, je dis souvent qu'en fait, on n'a rien inventé parce que c'est de la monétisation de la collecte d'argent d'abord auprès de son propre réseau. Et donc, c'est ce qui s'appelait la souscription publique. Et donc, il y a plein d'exemples historiques. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. Mozart a financé parmi ses premiers concerts sur la souscription avec des annonces dans les journaux.
Qui faisait des annonces dans les journaux.
Les journaux, préachetez votre place. Et avec les préventes de places, ça lui permettait de financer la location de la salle et donc de financer ses premiers concerts.
Énorme.
Il y a un qui est très connu pour la Tour Eiffel. La France a offert, pas la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté. La France a offert la Statue de la Liberté aux USA. Et arrivé aux USA, il fallait pouvoir l'installer. Et il n'y avait pas de financement pour le piédestal pour l'installer. Il y avait des grosses fondations à faire. Et donc, c'est une souscription qui a été lancée dans un journal américain et donc qui a été financée de cette façon-là. Et tout simplement, au quotidien, depuis, dans l'entrepreneuriat, collecter de l'argent quand on crée son entreprise auprès de son propre réseau, ça a toujours existé. Ou dans la vidéo, les premiers qui sont venus sur nos outils, en fait, c'est notamment dans des secteurs où c'était culturellement acceptable de le faire. Par exemple, format court audiovisuel, des courts-métrages, il n'y a pas de financement CNC, il n'y a pas de prêt à chaque chaîne. Ouais. Donc quand tu es un étudiant qui sort d'école de cinéma, t'allais voir la famille et les amis pour financer ton premier cours.
C'est vrai, quand on voit sur Ulule, on voit beaucoup de projets culturels.
Il y en avait beaucoup et il y en a toujours beaucoup. Ça a été les premiers à se lancer chez nous parce que pour eux, de toute façon, c'était un usage qu'ils avaient déjà. Et quand tu le numérises, ça facilite la chose. Tu as une page normée pour présenter ton projet. Tu peux le partager par réseaux sociaux. Et donc, le fait de le numériser, ça le rend beaucoup plus facile, mais aussi beaucoup plus chiant parce que tu peux te mettre à avoir des financeurs qui ne sont pas de ton réseau direct.
Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu nous rappelles sur l'histoire, la souscription publique, c'est vieux comme le monde, en fait, ça existe depuis tout. Je suis sûr que Jésus, il faisait de la souscription publique auprès de ses apôtres pour financer le pinard.
Fallait bien. Beaucoup de religions ont fait ça, des financements notamment d'églises et de cathédrales, tu avais des parties qui étaient financées en souscription publique. Ouais,
c'est la souscription publique et Ulule, en l'occurrence, ça a été inventé quand? Ça a été créé comment?
Alors,
tu as été cofondateur.
En 2010, celui qui est à l'origine de l'idée, c'est Alexandre Bouchereau, qui est un vieux de la veille du web, qui a créé en 98 Fluctuate.net, qui était le premier webzine culturel français, qui était un peu un mix entre Télérama ou Les Inrocks.
Ouais, je me souviens.
On parle de 98, c'est le modem 56K, celui qui faisait beaucoup de bruit. Il y en a beaucoup qui regardent sur Twitch qui connaissent pas, mais voilà, pour les vieux de la veille du web, on connaît. Et donc, il observait les usages du web évoluer depuis très longtemps, et en 2001, il y avait des gens, c'était un webzine qui était gratuit, qui le contactaient en lui disant « mais il faudrait que vous ayez telle fonctionnalité sur le site ». À l'époque, les bannières, etc., ça rapportait pas beaucoup. Et lui, comme c'est quelqu'un qui vient notamment de l'édition et qui a une culture littéraire, il s'est dit « ok, je vais leur proposer, à ce moment-là, je vais créer une page, je vais proposer aux gens de donner de l'argent pour qu'il y ait cette fonctionnalité-là qui existe sur le site en 2001 ». Et à l'époque, tu as plein de gens qui envoyaient des chèques parce que le paiement en ligne n'était pas très… Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui payaient en ligne. Mais il a vu que ça fonctionnait, que quand tu avais un projet qui plaisait aux gens, tu pouvais leur proposer de donner en ligne. Si ça leur tenait à cœur, sans leur proposer une rentabilité, etc., ils pouvaient participer. Et donc, du coup, bien plus tard, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés.
Ouais.
Et là, il s'est dit, OK, en fait, là, il y a un outil qui permet de massifier l'usage. C'est le moment de le faire. Et donc, il s'est lancé avec Thomas Grange dans l'aventure. Et puis, moi, je les ai rencontrés par les arts entrepreneuriaux. J'avais un projet et j'ai fini par les rejoindre parce que j'apportais des compétences complémentaires à leur équipe de base.
Il y a des projets marquants dans l'histoire d'Ulule. On se souvient de la websérie Noob, par exemple, qui a vu le
2013,
qui a vu le jour, 2013, avec un financement. Noob a remporté l'award de la meilleure série internationale, la meilleure websérie internationale à Hollywood lors des Streamy Awards de Los Angeles. Ça a été un projet assez important. Noob, dans la culture web française et geek, ça a été un projet important.
Oui, parce que c'est vraiment, pour nous, ça a été emblématique, parce que c'est les premiers qui dépassent 500 000 euros. Ils font en 2013 680 000 euros.
C'est énorme
et c'est un projet qui n'a pas du tout de financement traditionnel, qui a une très grosse communauté, mais qui est regardé par le monde de l'audiovisuel classique à cette époque-là, un peu comme un truc en disant « mais ça, c'est les gars du web ». En fait, là, il y a plein de gens qui réalisent que « bah non, en fait, il y a plein de gens qui aiment ces contenus-là, il y a plein de gens qui sont prêts à les financer ». Et alors, ils ont continué, ça les a énormément aidés et ils ont continué à se développer. Mais je dirais que ça a été un premier prise de conscience de plein d'acteurs et notamment de créateurs de contenus web, youtubeurs, en se disant, mais ça peut être un super outil pour nous. Donc, ça a été un marqueur.
Ça l'est encore aujourd'hui. Dans le domaine associatif aussi, Ulule a permis le lancement de SOS Méditerranée, une association civile et européenne de recherche et de sauvetage en mer, bien connue.
En 2015, ça c'est une très belle histoire. On est super contents d'avoir pu les aider. Ils continuent toujours. 2015, c'est le moment où il y a cette photo d'un enfant mort sur une plage qui fait énormément d'émotion. En fait, ça faisait plusieurs mois qu'on discutait avec un groupe de personnes qui voulaient constituer cette association avec des Français et des Allemands. Et on leur disait, ça peut être un super outil pour vous. Et en fait, dans le timing, bah, il y a ce grand coup d'émotion sur ces sujets-là. Et là, à l'époque, c'était Mathieu Maire du Posé chez nous qui leur dit, écoutez, faut que vous lanciez maintenant, c'est le moment. Et donc, souscription, très gros succès, qui leur a mis le pied à l'étrier. Et puis ensuite, ça leur a permis bah, de démarrer. Et maintenant, ils continuent avec le succès qu'on connaît, avec des actions de terrain qui sauvent des vies tous les jours.
Dans le domaine de la mode aussi, il y a l'entreprise 1083 qui est un symbole de la réindustrialisation française du textile.
Oui, assez différent. Donc ça, c'est Thomas Huriez, qui est maintenant un fer de lance du Made in France et de la relocalisation, qui a lancé une marque avec un nom 1083 qui représente le nombre de kilomètres qui sépare Menton et Porspoder. Donc c'est la diagonale la plus éloignée entre deux villes de France. Et comme il source tout en France, bah, la promesse, c'est votre jean n'a pas parcouru plus de 1083 km avant d'arriver chez vous.
Ah, ça vient
alors,
de là le nom.
Ça vient de là. Alors que dans la production vestimentaire, tu as le fil qui vient d'un endroit, la teinture qui vient d'un autre endroit, tu fais l'assemblage à un endroit. Et donc, en fait, ton jean, il fait trois fois le tour du monde avant d'arriver en magasin. Et donc, ça a été un premier projet vestimentaire emblématique, mais aussi Made in France, et qui, derrière, a eu bah, toute une traînée de poudre avec plein de personnes qui se sont dit « Ah, mais c'est intéressant, pour produire de façon différente, il y a des gens qui sont prêts à soutenir des initiatives de ce type-là. » Et donc, bah, ça a permis, je dirais, de montrer aussi que c'était un type d'outil utile pour des projets d'entrepreneuriat avec des objectifs d'impact social et environnemental.
Alors, n'importe qui peut créer un projet sur Ulule, le faire financer, ça a parfois posé des problèmes. On se souvient en 2020, ça avait fait beaucoup polémique à l'époque et pour cause, sur Ulule, on pouvait trouver la campagne de financement de Hold Up, cette fiction complotiste complètement barrée sur le Covid. Ça a été un échec, ça.
Ça a été une grosse plantade qui nous a. On était déjà attentifs à ce qui se passait parce que, contrairement à plein d'acteurs du numérique, on a toujours fait le tri avec une politique où en fait on n'accepte pas tous les projets, il y en a qu'on refuse, les projets qui sont extrémistes, etc. Mais je dirais qu'on avait une marge de tolérance sur des projets, par exemple dans le domaine de l'ufologie, tu vois, toutes les personnes qui prétendent qu'il y a des ovnis. Ouais. Parce qu'on se disait, ok, ça c'est le folklore du web, ça a toujours existé sur le web. Et quand Hold Up nous fait une proposition de projet, le pitch était un peu édulcoré, et en fait on n'est pas assez méfiant et on n'est pas assez formé sur le sujet de la désinformation médicale. Et on accepte, la campagne se lance, et quand ils sont en cours de collecte, le discours monte, et on s'aperçoit qu'en fait, non, c'est vraiment toxique, que c'est probablement vraiment de la désinformation. À l'époque, tu vois, c'est du financement, donc on n'a pas encore les contenus finaux. Mais on voit juste des bribes qui commencent à partager dans les mécaniques de news, et on se rend compte qu'en fait, non, manifestement, on va avoir vraiment à faire un truc de désinfo. Et puis finalement, ça sort. Et on se rend compte, bah là, c'est partagé, ça a été partagé des millions de fois par WhatsApp, avec plein de gens qui se passaient le truc.
Ouais.
Ça a été un des trucs qui a fait la promo de l'hydroxychloroquine et du point de vue de Didier Raoult et toute la désinformation qu'il y avait autour. Et nous, ça nous a mis une grosse claque, parce qu'on s'est dit, involontairement, on a participé, on a facilité le financement d'une fiction de désinformation qui bah, peut-être fait qu'il y a des gens qui, du coup, ont décidé de ne pas se vacciner et qui, peut-être, du coup, en sont morts. Et quand tu cherches à bien faire les choses, bah, tu te dis, merde, en fait, c'est contrairement à l'inverse de ce qu'on veut faire.
Et qu'est-ce que vous avez fait après ça, du coup? Vous avez changé?
Alors du coup, ouais, on s'est fait former par Tristan Mendes France, que je recommande vivement de suivre. Il est très actif sur les réseaux, qui est un spécialiste de l'extrémisme en ligne et de la désinformation, qui est venu former notre équipe et qui nous aidait à prendre conscience d'un truc, en fait, qu'il y a un continuum du complotisme, où en fait, même dans les trucs folkloriques du web, si tu penses, par exemple, qu'il y a un mystère des pyramides, et donc, en fait, bah, quand tu tires le fil, ça veut dire que dans les livres d'histoire, on nous raconte des bêtises sur qui a construit les pyramides. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les ministères nous racontent des bêtises. Ça veut dire que tu as un grand complot. C'est exactement la même chose que de penser, bah, par exemple, que le Pizzagate, que tu as des gens qui se réunissent, tu vois, dans des souterrains de pizzeria pour aller créer de la nénochrome en torturant des enfants. En fait, c'est des mécaniques qui amènent exactement à la même pente savonneuse. Et en fait, qui détruit la capacité de vivre en société, parce que qui détruit toute la confiance dans le système de société qu'on a bâti. Et donc, partant de là, bah, du coup, ça nous a aidé à nous dire, OK, en fait, il faut qu'on soit beaucoup plus, j'irais, clair sur le fait qu'il n'y a pas de ligne grise. En fait, c'est toujours de la ligne rouge. Et donc, dans l'août, on refuse systématiquement. On met en place des mécanismes de détection de mots-clés à risque.
Okay.
On forme régulièrement nos équipes. Dès qu'on a un cas de projets qu'on refuse pour ça, et en fait, il y en a plusieurs par mois, On fait une petite vidéo tuto qui explique le cas pour que notre équipe soit formée en continu. Quand tu arrives chez nous, du coup, tu as tout un backlog de vidéos que tu peux regarder qui te forment sur les cas. Et comme ça, tu as un historique parce que c'est beaucoup de pratiques. Et donc, on a cette muraille de Chine qu'on a créée qui nous permet d'éviter d'avoir des collectes problématiques de ce type-là qui sont contraires à nos valeurs.
Et vous en avez encore des projets de désinformation qui essayent de se présenter sur la plateforme?
Ah ouais, plein. Ça me surprend toujours. Ça me surprend tout. Non, en fait, ça me surprend toujours. Je pense qu'en fait, ils essayent ou ils n'ont pas conscience qu'on est attentif à ce point-là. En fait, on regarde, par exemple, dans les médias. On a plein de projets de médias. Et en fait, dans nos guidelines, dès qu'on a des projets de médias, on regarde évidemment qui sont les speakers, qui sont les journalistes, etc. Mais on demande aussi, OK, quels vont être vos premiers invités? Et en fait, c'est souvent assez révélateur parce que quand dans la première liste d'invités, tu as une liste de plein de personnalités qui sont des red flags complets en matière d'extrémisme et de désinformation, tu vois quelle est la ligne et tu sais que potentiellement, c'est un média qui va être dans la désinformation et donc peut-être ailleurs, mais en tout cas pas chez nous.
Et est-ce qu'ils arrivent à se financer ailleurs du coup ?
Ah bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de plateformes. Enfin, en fait, on est les seuls à faire ça. Tu vas sur... Kickstarter, Indiegogo, les plateformes américaines n'ont pas des politiques de tri de ce type-là. En fait, c'est les plateformes numériques, globalement, ne font pas ce tri-là parce que c'est lié à vraiment une mécanique de responsabilité qui va à l'inverse de ton intérêt économique. Mmh. C'est des projets qui captent énormément l'attention parce que la désinformation, ça joue sur le biais de simplicité, ça joue sur le biais de confirmation, ça joue sur le biais de négativité, donc ça capte l'attention. Donc en fait, c'est des projets qui marchent super bien sur les plateformes, comme ils marchent super bien sur les réseaux. Et donc en fait, comme ça va au contraire de l'intérêt économique et que c'est pas de la régulation qui t'impose de faire ça, les acteurs numériques font pas ça. Donc oui, ils peuvent aller ailleurs et ils trouvent malheureusement plein de portes ailleurs.
On a vu l'élection présidentielle américaine, Donald Trump élu et le shift qu'a fait Mark Zuckerberg pour Meta, Jeff Bezos également sur Amazon. Ça interroge sur le rôle et la puissance de ces leaders mondiaux de la tech. Vous, Ulule, est-ce que vous appartenez à un géant? Est-ce qu'on peut craindre qu'un jour Backseat passe à la trappe parce que ça aura changé de politique là-haut et que...
Non, on n'appartient pas à un géant. Alors, on est indépendant. On a des investisseurs qui sont là depuis 2016, qui sont des fonds d'impact investing, mais qui sont minoritaires. Okay. Et sinon, c'est une entreprise qui appartient majoritairement aux dirigeants, aux salariés. Donc, tant qu'on est à la barre, non, il n'y a pas à craindre ça. En fait, on nous reproche plutôt l'inverse. C'est-à-dire que comme on a cette politique-là, les personnes qu'on refuse crient à la censure,
oui,
crient
au scandale. Vous êtes accusé de censure, du coup.
Oui, parce que c'est toujours le truc où en fait il y a une mauvaise compréhension sur l'argumentaire en fait des extrémistes ou des désinformateurs qui se font refuser sur des plateformes numériques. Ils assimilent ça à une entrave à la liberté d'expression, qui est une mauvaise lecture de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en fait on leur interdit pas de se présenter partout. On leur dit juste chez nous. C'est non. Mmh. Il y a plein d'autres médias et puis les réseaux sociaux qui leur donnent des portes autant qu'ils en veulent. Donc c'est plutôt l'inverse en fait qu'on nous reproche.
Quel regard tu portes toi sur justement ces évolutions récentes et en même temps elles sont assez lentes et assez attendues de ces géants de la tech qui se raidissent se rangent tous du même côté?
Moi je trouve que c'est dramatique et ça va dans le mauvais sens parce que pour moi en fait la mécanique algorithmique de contenu mis en avant bénéficie en premier lieu aux contenus toxiques, à la désinformation. Parce qu'en fait, c'est des contenus qui captent l'attention, qui sont simplistes, et donc qui performent super bien sur ces plateformes-là. Donc, je pense que la montée des extrêmes qu'on observe en France, aux USA, l'élection de Trump, sa réélection, sont directement liées à ça. Et donc, je pense que si on ne veut pas aller sur une pente où on va se retrouver avec des gouvernements simili-fascistes, ou en tout cas qui ont quand même des idées fascistes, Trump a des idées vraiment giga inquiétantes, quoi. Également en France et en Europe, il faut, de mon point de vue, je pense que ce serait souhaitable de réguler ça. Et ce serait souhaitable de responsabiliser les plateformes numériques, et notamment les réseaux sociaux, en premier lieu, parce qu'en fait, ils bénéficient avant tout au contenu de ce type-là, et qui sont dramatiques pour nos sociétés.
La responsabilisation et la régulation des plateformes numériques, c'est un discours très européen, et on sait que si Mark Zuckerberg a changé a fait volte-face sur sa position, c'est pour essayer d'obtenir l'aide de Donald Trump et de son camp pour lutter contre l'Union européenne et sa volonté de réguler et de responsabiliser les plateformes.
Bien sûr, et je pense que là-dessus, les USA, Trump, etc., je pense qu'ils voient midi à leur porte, c'est-à-dire qu'en fait... tous les gens du numérique américains n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une régulation européenne parce qu'ils vont être obligés de s'y conformer. C'est ce qui s'est passé avec le RGPD. Donc en fait, ils n'ont pas du tout envie qu'on fasse ça parce que derrière, ça va taper sur le portefeuille, là où ça fait mal. Donc pour eux, il n'y a rien de mieux que de diviser l'Europe pour être sûr qu'en fait, on ne se mette pas d'accord sur une réglementation de ce type-là. Et alors, on a la DSA, la DMA, Digital Services Act et l'autre, je me souviens, Digital Markets Act. Qui existe en Europe. Moi, j'attends de voir les premières applications et surtout les premières amendes. Il y a une enquête qui a été lancée contre Twitter. Ça a été annoncé à corps et à cri il y a quelques mois. Bon, bah, va-t-il y avoir des condamnations ? Je pense qu'il y a largement de quoi. Je pense que là, les entorses, elles sont là. En tout cas, moi, je le souhaite parce que je pense qu'on est sur une pente savonneuse et malheureusement, aujourd'hui, qui est à sens unique.
Effectivement, du coup, tu positionnes Ulule comme une sorte de contre-modèle, comme la preuve que la régulation, ça peut fonctionner, ça peut marcher.
Ouais, nous, c'est de l'autorégulation, mais ouais, les plateformes numériques disent toujours non, on ne peut pas faire. Ça prendrait trop de temps, ça aurait trop de coûts. Enfin, nous, on est une boîte de 60 personnes et on arrive à le faire. Alors, on n'a pas du tout autant de contenu que les réseaux sociaux, mais ils arrivent à faire de la mise en avant de contenu algorithmique. Ils sont capables de faire du tri de contenu algorithmique.
D'autant que je crois que les régulations européennes imposent aux plateformes de démontrer qu'elles mettent un minimum de moyens pour essayer de...
Bien sûr.
On leur demande pas de réussir absolument à tous les coups, mais au moins de démontrer qu'ils... Et là, c'est... Le backlash est très impressionnant parce qu'ils ne veulent plus faire.
Ah bah oui, oui. Et puis Zuckerberg, qui était plutôt volontariste, enfin, lui, il est en train de... C'est hyper dark, le tournant qu'il a pris. Et franchement, moi j'étais hyper attristé par ça. Ouais, ça va vraiment dans le mauvais sens.
C'est quoi l'avenir d'Ulule au-delà de ce rachat de KissKissBankBank? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau service que vous lancez qui s'appelle Camp de Base?
Le Camp de Base, alors c'est, on lance officiellement en avril, mais s'il y a des curieux créateurs, entrepreneurs, on peut déjà y aller pour le découvrir. C'est un service qui est orienté vraiment sur les créateurs, les entrepreneurs, pour les accompagner tout au long de leur parcours avec des lives. Pour se former, donc sur plein de sujets, ça peut être le référencement naturel, ça peut être le marketing digital, ça peut être le choix de son statut, plein de questions qui se posent au quotidien avec des lives réguliers, avec un programme de live où on vise pour mi-début mars d'avoir 30 lives par mois, donc plus d'un live par jour, auxquels ils peuvent assister avec des experts de ces sujets-là, avec de l'entraide entre créateurs au sein de l'équipe Ulule, avec des espaces thématiques où tu peux poser des questions sur la catégorie de ton projet, et avec des bons plans sur plein d'outils qui sont d'outils numériques principalement, qui sont fréquemment utilisés par les créateurs et les entrepreneurs, et donc des abonnements à plein de services numériques à prix réduit. Donc c'est fait pour les aider, au-delà de ce qu'on fait en financement participatif, et au-delà de notre organisme de formation, où là c'est des formations l'EGYPCPF, plus au long cours.
C'est quoi le service publishing pour les créateurs?
Alors ça va venir plus tard, on n'en parle pas encore. En fait, on va bosser, il y a une problématique qui nous tient à cœur, c'est la problématique des auteurs. Dans le monde de la création. Et en fait, il y a plein d'auteurs qui pourraient utiliser Ulule, des services comme le nôtre, et qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas avoir eux-mêmes à gérer de la production, à gérer de la mise en paquet des colis, à gérer du SAV client, à gérer de la relation avec les imprimeurs, etc. Et pourtant, s'ils le faisaient, ils vivraient probablement mieux de leur travail et de façon plus indépendante. Et donc, on a envie d'aider ces créateurs-là à basculer sur des modèles de ce type-là, que tu connais bien, parce que c'est l'histoire de Backseat. Et il y en a plein dans le secteur du livre. Et donc, de créer un service clé en main, où on les accompagne sur toutes ces dimensions-là. Ça restera leur contenu, c'est eux qui le font. On n'a pas voix au chapitre sur la partie éditoriale. Par contre, c'est un service technique pour les aider et pour être un peu leur back-office. Et donc ça, on bosse dessus et on espère pouvoir le lancer d'ici quelques mois. Et donc, ce sera un peu la nouvelle vitrine de KissKissBankBank, puisque ce sera un service vraiment dédié aux créateurs.
Il y a peut-être des personnes qui, en t'écoutant, ont des projets ou imaginent des projets, voudraient peut-être réfléchir à le financer sur Ulule. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de projet sur Ulule? C'est quoi la diversité des projets qu'on a? On a un petit peu parlé tout à l'heure des projets culturels, projets de court-métrage, projets de spectacle.
Alors c'est hyper varié, donc dans la culture on a de la vidéo format courte et format long, beaucoup web, on a du spectacle vivant, on a beaucoup d'éditions, tous les types de livres, celui qui est un peu moins représenté mais je pense que ça va venir, c'est tout ce qui est fiction, mais du beau livre, du livre illustré, du livre thématique, de la BD, de l'illustration, du manga, on en a beaucoup. Ensuite on a toute la brique entrepreneuriat. Alors entrepreneuriat, c'est un outil qui est adapté si vous avez un projet qui s'adresse au grand public et typiquement du produit ou du service grand public. Donc, par exemple, un commerce de proximité, ça fonctionne bien. Un restaurant, ça fonctionne bien. Une nouvelle gamme de vêtements, ça fonctionne bien. Par contre, si vous avez un service qui est très B2B, qui s'adresse à des entreprises, ce n'est pas le bon outil. Vous n'allez pas trouver votre public là-dessus. Mais donc, dans l'entrepreneuriat, on a énormément d'entreprises qui se lancent, qui démarrent, qui viennent faire des nouvelles versions de produits ou des nouveaux produits. Souvent, sur l'entrepreneuriat, qui est de l'entrepreneuriat engagé. Parce que comme sur Ulule, en fait, tu ne gagnes pas d'argent quand tu participes à un projet. La décision de soutien, elle est basée sur soit le lien social, soit l'engagement. Je veux que ce projet existe, donc je lui donne de l'argent, mais en fait, on ne promet pas de rentabilité. C'est pas ça l'idée.
C'est pas de l'investissement.
C'est pas de l'investissement. Et donc, les entreprises qui fonctionnent chez nous, c'est des entreprises qui sont engagées sur les sujets sociaux et environnementaux.
Ça fait partie des déterminants de succès.
Exactement.
C'est un exemple. Enfin, voilà.
Ouais, exactement. Et ensuite, il y a tout le champ de la solidarité. On a parlé des SOS Méditerranée. Mais donc, on a plein de projets de solidarité et de patrimoine. Et on a, par exemple, des musées qui fonctionnent sur des collectes qui vont aller chercher des budgets pour rénover des pièces du musée. Voilà, on a plein d'exemples dans le patrimoine.
Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez un projet, si vous voulez lancer une asso, une entreprise éthique, n'hésitez pas à vous rendre sur Ulule. Sur Ulule, évidemment. Vous trouverez toutes les aides, on en a parlé, le camp de base et autres. Je vous rappelle que Backseat est une émission, donc on a un financement participatif qui était sur KissKissBankBank, qui va donc passer sur Ulule. Automatiquement, vous n'aurez rien à faire. Je vous rappelle qu'on récolte 30 000 euros par mois, ce qui nous permet de financer deux émissions par mois. Notre objectif, c'est de faire une émission par semaine. Donc les émissions supplémentaires, on les finance grâce à des partenariats, à des bifors, à des partenaires qui acceptent de nous financer. On a aussi une aide de la part du CNC. Et votre argent sert évidemment à financer l'ensemble des salaires de toutes les personnes qui préparent cette émission, tant dans l'équipe technique que dans l'équipe éditoriale. Merci beaucoup Arnaud Burgot.
Merci Jean.
Je rappelle que tu es le directeur général d'Ulule. Merci d'être venu sur le plateau de Backseat. On se met un petit générique et juste après, on reprend votre émission. À tout de suite.